Ce soir, nous recevons Serge Guibaud. Serge Guibaud est né en 1943. Il est docteur en histoire de l'art. Il a reçu son doctorat à l'University of California à Los Angeles. Il est actuellement professeur à la University of British Columbia. Il est spécialiste de l'histoire et de l'histoire de l'art de l'après-guerre en France et aux États-Unis, et plus particulièrement de l'histoire des relations franco-américaines dans le domaine de l'art et de la culture. Il a reçu de nombreux prix, et parmi lesquels j'en citerai un, celui qu'il a reçu en 1991-1992, qui est le Killiam Faculty Research Fellowship. Il est l'auteur de nombreuses publications dans des revues spécialisées, et il est l'auteur des ouvrages suivants. Le premier, dont je donnerai la traduction française, qui s'intitule « Comment New York vola l'idée d'art moderne », qui a d'abord été publié en 1983 à l'University of Chicago Press et qui a été traduit en français aux éditions Jacqueline Chambon en 1990 et qui est sans doute l'ouvrage qui l'a fait connaître. Il a publié en 1990 au MIT Press « Reconstructing Modernism ». Il a publié ensuite chez Jacqueline Chambon en 1994 « Voir, ne pas voir, faut voir, essai sur la perception et la non-perception des œuvres ». Puis Théodore Géricault, « The Alien Body, Tradition and Chaos », qui est une publication qui a été faite par Serge Guibaud, Maureen Ryan et Scott Watson, publiée à Vancouver, Belkin Gallery en 1997. Et il a également dirigé la publication des ouvrages suivants, « Modernism and Modernity », publié par Nova Scotia College of Art and Design Press en 1983, Voices of Fire, Outrage and Power, qui est un ouvrage sur Barnett Newman et qui est publié par l'University of Toronto Press en 1996. Et enfin, Où va l'histoire de l'art contemporain, publié par l'École normale supérieure des beaux-arts de Paris en 1996. Serge Guibaud, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux avec le temps pareil à Paris, c'est très bien. Le titre de la conférence, c'est « Muséalisation du monde ou californication de l'Occident ». C'est une question qui se pose actuellement avec forte acuité, me semble-t-il. Et je vais essayer de discuter un petit peu ça en présentant des exemples qui va discuter de les musées, comparer les musées avec aussi les galeries marchandes. Et je vais vous montrer ça avec certaines diapositives. Tout semble indiquer à l'aube du 21e siècle que l'ensemble des valeurs culturelles et artistiques partagées jusqu'ici par l'Occident sont profondément remises en question. La désintégration de l'Empire soviétique a entraîné la fin des alliances de la guerre froide et le développement ultra rapide des technologies de communication ont permis au capitalisme de triompher et de dominer la planète. Nous assistons parallèlement à une transformation radicale des canons esthétiques qui intègrent désormais dans leurs paramètres des voies et des cultures différentes. Certains croient voir dans ce phénomène la preuve que la libéralisation des marchés entraîne automatiquement la libéralisation culturelle. Devant la multiplication des musées et l'invasion planétaire du tourisme culturel, il peut être légitime de s'interroger sur la nature de ces diverses manifestations. Sont-elles signes de progrès ou, au contraire, simple colonisation culturelle du style de vie californien? Et à l'instar des Red Hot Chili Peppers, un groupe pop à la mode, pouvons-nous nous demander si, davantage qu'à la muséalisation du monde, nous ne serions pas confrontés à la californication de l'Occident? L'expérience de cette californication, donc il chante, état d'esprit qui transforme le paradis en ersatz, est cependant très ambigu, tout comme peut l'être la transformation du monde moderne en postmodernité, du fait même que ces dernières drainent une esthétique originale. Faisant fi des canons et autoritarismes modernistes, cette esthétique reste amplement ouverte aux voies et aux formes de la périphérie. Ce qui est clair cependant, c'est que l'ouverture du monde aux forces du marché a favorisé la production d'une culture dominante dans laquelle l'art, les musées, la culture marchande et le tourisme s'entremêlent de plus en plus. D'ores et déjà, on assiste à la convergence de sphères culturelles autrefois clairement séparées. C'est ainsi que chaque jour, un peu plus, les grands musées ressemblent à des galeries marchandes et les galeries marchandes à des musées. Les nouveaux musées, comme les galeries marchandes, servent à réactiver des quartiers tombés en désuétude. Ce phénomène est tant le résultat d'un changement radical des mentalités que celui d'un mouvement général de privatisation de la sphère culturelle à l'échelle mondiale. Cette mondialisation d'une culture de masse produit une culture touristique qui investit aujourd'hui la planète. Mais ce phénomène est surtout visible dans les pays riches et anciennement industrialisés, capables de s'implanter dans le monde entier par l'intermédiaire de leurs entreprises multinationales et de tirer, grâce à la flexibilité des marchés du travail, d'énormes et nouveaux profits. Masao Miyoshi, qui est un politicien qui travaille aux États-Unis, l'explique clairement. La mondialisation a détérioralisé le monde, ouvert de nouveaux marchés et localisé au sud des mains-d'œuvre plus dociles et moins coûteuses que dans les pays du Nord, impliquées désormais dans la haute technologie. En même temps que les industries lourdes sont transformées en industries de services, la délocalisation effrénée des compagnies s'accompagne aussi de la délocalisation des grands musées. Le futur sera touristique ou ne sera pas. Cette délocalisation est devenue l'un des moteurs essentiels de nos économies, entraînant un développement conséquent des voyages intercontinentaux. Le voyage aujourd'hui marque fortement notre contemporanéité. Depuis la chute du mur de Berlin, les grandes multinationales, encore attachées à des centres nationaux, se transforment en compagnies transnationales indépendantes de tout gouvernement et deviennent vite incontrôlables. Le rapide développement des nouvelles technologies dans les pays riches change tant les mentalités que les conditions journalières du travail. Cette mutation de la vie quotidienne, alliée à la précarité nouvelle des emplois, est due en grande partie à l'évolution de l'électronique. Et l'explosion des technologies de communication donne au plus grand nombre la possibilité d'être en phase avec la modernité en étant toujours à portée d'un téléphone ou d'un mail prêt à répondre à l'appel du travail. Une psychose du temps se développe dans ces pays branchés, les gens étant en permanence maintenus sur le qui-vive. Les changements de rythme du travail, le stress consécutif à la vitesse croissante des échanges et la précarité générale des emplois ont créé dans nos pays une tension évacuée, semble-t-il, dans les temps de vacances, bref, mais ouvert à des horizons de plus en plus vastes. Temps et espaces libres deviennent si rares ou si condensés que nombreux sont ceux qui suffoquent. Les moments préservés pour la pensée, l'isolement, la réflexion ou l'introspection sont de plus en plus exceptionnels. Les pressions sont devenues telles qu'il se crée actuellement au Canada et aux États-Unis une nouvelle profession qui consiste à s'occuper de gens qui se sentent prisonniers de leur travail et par conséquent profondément stressés. La solution consiste à réévaluer l'importance des espaces spirituels localisés hors du pragmatisme quotidien, orientés vers l'efficacité et le matérialisme. Ces nouveaux gourous futuristes préconisent la préservation d'espaces quotidiens précieux et libres afin de sauvegarder un peu d'humanité. Le plus souvent, la cure consiste à faire du sport, de là l'explosion des centres visant à soigner le corps, clubs de gymnastique, culturisme ou encore sport extrême, à s'intéresser aussi au spirituel, à la culture, au voyage. Mais la pression du temps restant prégnante, paradoxalement, tout cela doit être fait rapidement. Et s'il faut accéder au monde des loisirs intellectuels et spirituels, cela ne saurait se faire en perdant du temps. Il faut savoir calibrer les choses et calibrer ses doses. Cela d'ailleurs a été compris aussi par les publicistes de l'Université de tous les savoirs, puisqu'ils n'ont pas hésité à représenter des capsules médicinales sur la couverture du programme, vous voyez ce que je veux dire, ici, afin d'annoncer à tout un chacun que le dit programme se doit de distribuer une certaine dose de culture à tous ceux qui en ont besoin pour vivre. La culture et la connaissance bénéficient dorénavant des mêmes performances que le Prozac ou l'Ecstasy. Cette caractéristique a évidemment des conséquences importantes sur le développement des institutions culturelles. Celles-ci doivent désormais répondre aux besoins urgents et précis d'une catégorie de personnes voyageant de plus en plus, avec de moins en moins de temps. Fini les dérives beatniks, ou les longues routes affectionnées par les hippies et les routards, nous entrons dans l'ère de l'efficacité et de la surface yappie. Pour cette nouvelle classe favorisée mais pressée, il faut un tourisme rapide qui donne à voir clairement et proprement l'authenticité de cultures autres, qui semble avoir disparu des grands centres aujourd'hui uniformisés. Nous assistons à la réorganisation du monde en spectacle culturel pour voyageurs fatigués et pressés, stressés, mais désireux de ne pas mourir idiots, selon l'expression française aujourd'hui consacrée. Cette mondialisation de la culture, cette muséalisation d'un monde façonné pour le voyageur des pays riches, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres types de transplantés, comme le sont les victimes de plus en plus nombreuses de l'exil et de l'immigration, engendre des effets contradictoires. Afin de produire des représentations faciles à intégrer par l'énorme développement du tourisme culturel, on assiste parallèlement à l'uniformisation des cultures et à la naissance de forts mouvements régionaux parfois fondamentaliste, au point de prôner la vie en autarcie. Le rôle des nouveaux aéroports qui se construisent de par le monde pour répondre à l'énorme demande de circulation est impressionnant, puisqu'ils intègrent dans leur structure même une façade artistique et culturelle. Les aéroports maintenant privatisés tiennent à avoir, avec leur vocation internationale, une image enracinée dans le local. Comme ces structures se ressemblent toutes, même aspect postmoderne, même magasin hors taxe, même produit, les cultures et histoires locales sont les seules choses qui les différencient. L'art devient le signe de reconnaissance de la différence, une forme d'exotisme nécessaire et suffisante pour marquer le fait que le voyageur arrive ailleurs. Les villes s'affichent dans les aéroports à travers des vitrines et œuvres d'art qui ne peuvent être vues qu'au pas de course et en tirant sa valise. Cela n'a pas véritablement d'importance puisque ces images ne sont là que pour signaler simplement l'arrivée à destination de celui qui n'est plus là où il était. L'expérience du dépaysement annoncé ne se fait souvent qu'à l'aéroport puisque les grandes villes ont toute tendance à se ressembler de plus en plus. L'aéroport est devenu une oasis pour repères historiques. San Francisco expose sa ruée vers l'or, Los Angeles, le cinéma et l'industrie aéronautique, et Vancouver, comme vous pouvez le voir ici, ses habitants Première Nation, c'est-à-dire les Indiens qui étaient dans la côte nord-ouest du Canada, avant les Anglais. Être représenté dans l'aéroport constitue une importante percée sociale pour ces communautés qui affichent la pérennité de leur culture, même si la réalité est parfois bien différente. L'art et la culture régionale deviennent maintenant un signe d'identité, une manière de marquer superficiellement l'endroit où l'individu est parachuté. L'aéroport est devenu musée, alors que le musée, comme je disais, ressemble lui aussi très fort à un aéroport. L'exemple du musée de Guggenheim de Bilbao vient à l'esprit et j'y reviendrai plus tard. Des musées et des biennales. En produisant pour l'exportation des expositions suffisamment consensuelles pour être acceptées par le très large marché international du divertissement, nombre de grands musées jouent aujourd'hui la carte de la mondialisation. Ces expositions sont envoyées aux quatre coins de la Terre. Certains musées plus modestes, privés de collections éclatantes et de budgets faramineux, sont néanmoins friands d'images canoniques qui attirent le public et affinent leurs propres représentations. Ils deviennent des gares où les trains, comme le faisait jadis le cirque Barnum, débarquent les clowns de service pour animer les foules. J'utilise cette métaphore sciemment puisque c'est l'une de celles qu'utilise fréquemment Thomas Krenz, le directeur du musée Guggenheim de New York. Ces expositions itinérantes qui recyclent ad nauseum les impressionnistes, les Picasso, les trésors de ci, les filons de ça, sont montées comme des revues populistes avec un maximum d'images de célébrités connues et reconnues et un minimum de textes. C'est le choc des belles icônes. Dernièrement, la taille des audiences est devenue le seul critère retenu pour évaluer le succès ou l'échec d'une exposition. D'énormes sommes d'argent sont de préférence allouées à la publicité plutôt qu'à la recherche nécessaire pour produire des expositions à thèse. C'est en tout cas la tendance en Amérique du Nord. Il convient également de souligner que le monde de l'art, comme le monde des affaires, s'est amouraché de la détériorisation, de l'ouverture, de l'hybridité, de la décentralisation et de la diversification. La flexibilité est devenue le mot et le concept à la mode. Le monde de l'art, à travers ses nombreuses institutions, critiques, expositions, nous propose une grande variété de produits dont plusieurs sont dotés de saveurs exotiques. Le résultat de cette apparente ouverture aboutit à la glorification d'un art médian, d'un art toute saison, au goût aussi fade que celui des fraises de Californie offertes par les supermarchés tout au long de l'année. La chute du mur de Berlin et la fin des divisions classiques attachées à la guerre froide ont donc ouvert le monde aux échanges et aux voyages. Cela a permis aux intellectuels de produire de longues litanies optimistes pendant 2-3 ans, délirantes sur la possibilité de la communication universelle prochaine, voire de la réconciliation. Néanmoins, cette mobilité et cette fluidité sont toujours tributaires de la diversité des réalités sociales et économiques. La prolifération dans le monde entier des biennales internationales aurait pu être le signe d'une redistribution des cartes et de la production de fortes différences. Malheureusement, c'est trop souvent le contraire qui s'est produit, et pour se faire entendre du monde de l'art, ces voix trop longtemps ignorées ont dû être enregistrées par la machinerie des grands musées. La diffusion s'est transformée assez vite en autoritarisme sophistiqué, banalisant et recadrant l'hétérogénéité. Elle a aplani en fin de compte les différences et les aspérités qui pouvaient faire désordre. Les biennales sont devenus en quelque sorte, et ici j'exagère volontairement la métaphore, sont devenus en quelque sorte les maquiladoras, ce sont des usines de transformation qui pullulent à la frontière américano-mexicaine, donc les maquiladoras du monde occidental, une vitrine pour ces cultures subalternes, incapables pour des raisons économiques de créer un marché de l'art national conséquent, structuré et puissant. Les biennales de Shanghai à Sao Paulo, en passant par Séoul ou New York, permettent cependant aux artistes des pays moins développés d'entrer dans le discours artistique international avec l'espoir de trouver, dans l'énorme marché du tourisme culturel, une place, un espace au sein d'une diversité quand même contrôlée. Le XXIe siècle culturel semble s'élaborer à travers cette cacophonie que Paul Virilio nomme le babélien supérieur. Mais cette illusion de décentralisation radicale a un prix. Dans ce marché global, on peut détecter ce que l'on pourrait appeler, enfin ce que j'appelle, l'art de boutique, un type d'art détaché du marché de masse, mais aussi de celui des vieilles stratégies de l'avant-garde. Cet art de boutique, ayant rejeté toute critique utopique, cible des groupes très spécifiques à travers un art désengagé et souvent, je trouve, cynique. L'art de salon international est bien vivant. Non seulement les grands centres culturels continuent de fonctionner comme centres de tri, puisqu'ils possèdent la force économique et les leviers de l'édition et de la diffusion, par exemple, mais ils essaiment à travers le monde, suivant cela le schéma des franchises commerciales. Franchise commerciale, c'est comme McDonald's. Alors, je vais passer un moment sur le musée du Guggenheim de Bilbao, parce qu'il me semble un cas faramineux à étudier sur ce sujet. Le splendide musée Guggenheim de Bilbao est de ce point de vue le meilleur exemple de la mondialisation culturelle. Le musée, dans son fameux bond en avant avec l'Europe, vers l'Europe, a réussi son passage au XXIe siècle. À l'inverse de son rival du MoMA, le musée de l'art moderne de New York, je vais passer un moment pour expliquer la différence, Thomas Krenz, directeur du Guggenheim de New York, a compris la nécessité de se déployer aujourd'hui à l'extérieur et de poser des têtes de pont en Europe et en Amérique latine. Cette délocalisation marque clairement que l'hégémonie future ne se fera plus à partir d'un centre stratégique, mais à partir de pays étrangers. Le parachutage d'un musée d'une sensualité folle au sein du tissu urbain totalement déprimé de Bilbao fut un coup de maître puisqu'il devait permettre à la fois de sauver l'économie régionale et d'imposer une image culturelle forte, longtemps refusée aux États-Unis. La force de Thomas Krenz fut de comprendre qu'il pouvait monnayer son pouvoir symbolique afin de s'implanter mondialement en aidant les économies locales. Méthode que Krenz, venant de la Yale School of Management, a bien enregistrée. À Bilbao, la situation était d'autant plus mûre, quoique délicate, que la ville désirait marquer sa différence par rapport au centralisme madrilène. Ce cheval de bataille pour la défense de la culture moderne et contemporaine était en fait un cheval de Troie, puisque ses flancs contenaient les surplus culturels des réserves du Guggenheim, devenus ainsi propres au recyclage. Soulignons toutefois que l'entrée du redoutable cheval de Troie est protégée par l'inoffensive cerbère de Jeff Koons. Le Guggenheim comprit très rapidement que, dans un monde culturellement ouvert et libéré des forces de la guerre froide, les musées étaient devenus des puissantes machines dont le but principal était de faire des affaires. Ils pouvaient en outre se réjouir de participer à la propagande nationale, de montrer la force d'institutions privées au sein d'un libéralisme débridé et de baliser le territoire du culturel sur lequel allait se fonder la réorganisation du monde nouveau. Copiant la stratégie des fast-food, le Guggenheim s'attacha à s'implanter mondialement de manière à montrer sans aucun doute qu'il possédait et partageait l'essence des cultures modernes et contemporaines. Cet investissement énorme laisse présager les batailles futures qui ne manqueront pas de se développer entre l'Europe, les États-Unis et la Chine pour la suprématie économique et culturelle. Jusqu'à ces dernières années, le musée d'art moderne de New York, le MoMA, incarnait ce qu'il y avait de plus vivant dans la culture contemporaine. Il était notamment plus habile et plus puissant pour présenter comme des valeurs universelles ses choix esthétiques à un monde fasciné. Il le faisait en expert depuis 40 ans et défendait ce que l'Occident avait de plus cher face aux attaques des communistes et des philistins, comme l'individualisme, la modernité, le modernisme, l'originalité, le formalisme et l'histoire linéaire. Il est évident que le monde postmoderne, la multiplication et la diversité des sites de production ont posé d'énormes problèmes au MoMA. Le changement fut perçu et enregistré, mais les solutions apportées furent inverses à celle que proposait le Guggenheim, son adversaire de toujours. En 1917, confronté aux analyses postmodernes qui défendaient de nombreuses positions rejetées depuis toujours par le MoMA, le musée décida de réagir et de répondre à un chamboulement esthétique devenu incontrôlable. La fragmentation des discours esthétiques, l'explosion des voies anarchiques de la postmodernité, ne permettait plus à l'art moderne, celui défendu par le MoMA, de s'imposer et de continuer, comme par le passé, à éclairer le monde. La solution du musée, comme toujours, chaque fois qu'il y a une crise au MoMA, on construit une autre aile. Une extension qui permettrait à la fois de présenter et de contenir un art incompréhensible. Il s'opposa en cela au Guggenheim, qui intégra, quant à lui, cette nouvelle donne en s'imposant à l'étranger, comme le faisaient un peu les missionnaires. Le MoMA restructura donc la maison mère de New York, et pour mettre en valeur la vocation internationale du musée, le projet d'agrandissement fut confié à un architecte japonais. D'une dignité rigide, son extension apparut en fait comme une rétention, une protection contre l'acidité du contemporain. L'aile nouvelle, qui allait abriter l'hétérogénéité du moment, fut développée de façon à donner l'illusion que le musée vivait encore et qu'il restait en prise directe avec la vie quotidienne. Le texte publié sur Internet par le conseil d'administration était d'une toute autre couleur, parce qu'il disait « l'aile nouvelle serait digne et l'architecture allait contrôler, exposer les productions contemporaines, peu souvent appréciées du MoMA ». Dans une culture qu'il percevait comme étant celle du n'importe quoi, le musée voulait garder sa dignité plutôt que de tomber, comme tant d'autres, dans ce qu'ils appelaient la culture Disney. En fait, le problème du MoMA était de vouloir élever des barrières, des frontières et des murs, aussi dignes soient-ils, au moment précis où le monde culturel explosait en une myriade de sites et de styles. Aujourd'hui, quand d'anciennes usines de par le monde sont transformées en musées d'art contemporain, lorsque des villes entières deviennent des œuvres d'art, il est clair que le concept de l'aile nouvelle du MoMA ne pouvait fonctionner que pour les membres du conseil d'administration dépassés par les événements. Le nouvel espace était donc reconstruit autour de la cour, atrium aux sculptures et cœur original du musée. Il retournait aux origines, enlaçant l'espace comme pour embrasser les pères fondateurs. Les structures anciennes, construites par Philip Goodwin, Edward Durrell Stone et Philip Johnson, étaient protégées, soulignées et réintégrées dans le schéma général. Cette architecture stratifiée, dressée au beau milieu de Manhattan, rappelait étrangement la superposition des divers substrats historiques découverts récemment dans les temples aztèques au centre de Mexico. Là, chaque construction, chaque niveau historique dépassé, devenait inutile mais restait sacré, protégé par la structure qui l'enveloppait. La réhabilitation du MoMA comme structure autoprotectrice du temple moderniste est une métaphore parlante pour marquer la disparition de son pouvoir. La stratégie du Guggenheim, en revanche, allait dans le sens opposé. Au lieu de se reformer sur lui-même comme le faisait le MoMA, le Guggenheim étendait ses ramifications dans le monde entier, s'implantant et s'immisçant dans les tissus urbains en déshérence, propices à la transplantation. Délaissant la spécificité moderniste, le Guggenheim s'est tourné vers la culture touristique devenue dominante. Le succès du musée de Bilbao, grâce en particulier à son architecture flamboyante, fut tel que le tourisme, en injectant des fonds nouveaux, remit à flot l'économie de la ville. Fort de ces succès, Krenz négocie actuellement avec la ville de New York la rénovation d'une immense partie des docks et s'apprête à signer un énorme contrat avec la ville de Sao Paulo afin d'y installer un musée, tiré lui aussi des catalogues de Frank Gehry, l'architecte de Bilbao. Contrairement au MoMA qui s'accroche toujours à ce modernisme qui fit ses beaux jours, le Guggenheim est en passe d'installer l'une de ses succursales ou à Las Vegas, opposition parfaite du moderne. Art et tourisme s'y rejoignent totalement, comme cela avait été le cas à l'hôtel Bellagio, où John Jaird, l'architecte des galeries marchandes, a placé les œuvres impressionnistes dans les salles de jeux spécialisées, attirant les gros joueurs. Soulignant que le nouveau musée de Bilbao se trouve au cœur de l'ancien chemin de Compostelle, réinjectant de fait une nouvelle vie à ce vénérable parcours touristique. Les deux sites sont désormais complémentaires pour éblouir le visiteur. Ils le font davantage avec la beauté des architectures qu'avec la profondeur et la complexité des cultes pratiqués. Puisque les musées, dans leur grande majorité, jouent le jeu de la concurrence touristique en produisant de grandes expositions itinérantes, il est devenu de plus en plus difficile de trouver des alternatives. La puissance médiatique de ces expositions est telle que se créent en ce moment en Amérique du Nord des lieux de rencontre où les artistes au sein des communautés rencontrent des spécialistes de la culture, des anthropologues, sociologues, des historiens d'art, des philosophes, afin de discuter des problèmes de représentation en dehors des musées. L'un de ces lieux se trouve dans une vieille maison d'Atlanta. Il s'agit d'une auguste et majestueuse demeure construite entre 1909 et 1913. Et les derniers vestiges rénovés d'une ville désormais complètement normalisée, symboliquement et totalement encerclée de tours vitrées, abritant d'écrasants bureaux, sièges de firmes internationales. Cette maison préservée, surnommée non sans raison la forteresse, est réservée à la présentation, mais surtout à la discussion de la culture contemporaine. Cet espace, d'ailleurs financé par l'une des firmes qui l'encercle, a permis le développement d'une nouvelle manière de voir l'art contemporain, de le présenter et de le penser. Contrairement aux activités traditionnelles des musées qui exposent, cette citadelle rénovée à grands frais préserve un espace de discours et de critique. Les conversations, on appelle ça des conversations, que le lieu encourage, vont à l'encontre des espaces d'exposition conçus pour la contemplation. Cet espace de discussion est assez caractéristique de ce qui se dessine aux États-Unis et au Canada, par exemple à Insight à San Diego, qui aussi organise des conversations, et aussi à Banff, dans les montagnes des Rocheuses au Canada. Ces conversations, qui sont des expériences destinées à contrecarrer les discours des musées devenus maintenant beaucoup trop superficiels et coupés des réalités communautaires contemporaines, deviennent essentielles. Ce besoin de conversation s'impose, il faut le noter, au sein d'une culture de téléphone, du courriel et autres sources de communication non moins impressionnantes. Ces conversations impliquent évidemment un énorme besoin de rapprochement entre les diverses communautés urbaines qui essayent de prendre de plus en plus la parole. Ces discussions insistent maintenant davantage sur le processus, la manière de penser les actions, les expositions, les activités artistiques, que sur le produit fini, sur l'objet, comme il est de mise dans les musées traditionnels. Ces dialogues et ces expériences font ressortir, et ça c'est le but avoué de ces groupes, la carence de ces musées, de plus en plus attirés par le tourisme de masse et ses prérogatives. J'ai un petit paragraphe qui s'appelle « Être touriste chez soi ». Alors, si l'impact du tourisme est très fort dans la culture de l'art et des musées, il est particulièrement présent dans la vie quotidienne au point que l'on devient peu à peu un touriste chez soi. Le tourisme au sein de la culture mercantile mondiale a pris un essor si extraordinaire qu'il finit par régir nos vies quotidiennes. L'envie de tourisme est un besoin de dépaysement minimum. Tout est organisé pour qu'il y ait frisson, mais sans affolement pour autant. Il convient de se dépayser avec modération. Le monde entier semble aujourd'hui adhérer à cette idée. L'UNESCO a répertorié dans 67 villes, 165 villes classées comme trésors de l'humanité. Les centres urbains, ainsi nettoyés, protégés, calibrés, projettent des artefacts bienvenus pour le commerce international et toutes ces villes intégrant dans leurs plis les mêmes grandes marques ont le même profil. La muséalisation du monde ne va pas sans ce consumérisme puisque les dépenses pour la protection des sites sont souvent financées par les multinationales ou firmes transnationales qui placent leurs logos dans les endroits les plus sacrés. Ici, vous le connaissez, Alain Souchon, dans une de ses chansons, ne dit-il pas, déjà de Saint-Germain-des-Prés, je ne vais pas vous la chanter, mais enfin, vous connaissez, « Adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands mal appris, qui ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie, en librairie, en librairie. » Tout ceci se passe dans la ville internationale, historique, transformée en musée pour un public qui voyage beaucoup et facilement. La muséalisation de la vie quotidienne et de ces espaces se déroule aussi dans ces citadelles médiévales pour classe UP que l'on appelle aux États-Unis les gated communities et qui sont des communautés protégées par un système policier sophistiqué. Celles-ci existent surtout en Californie, en Floride et dans la région de Seattle autour de l'empire de Bill Gates. Ces communautés sont toutes construites selon le même schéma utopique. Il s'agit de villages traditionnels où les gens, dit-on, tentent de communiquer véritablement et non plus à travers des technologies avancées. On y reconstruit un monde mythique de relations personnelles, de communication simple et directe, où tout le monde s'entend bien. Mais pour en arriver là, il faut recréer au sein même de l'épanchement sans fin des banlieues des grandes cités, des espaces bien définis, protégés de l'autre, de celui qui ne peut accéder au même rêve. Pour cela, on s'enferme, on se protège avec un mur, on construit un village fortifié, avec des gardes armés, et surtout une surveillance électronique de tous les instants. Mais plus on construit ce type de village, plus le reste de la ville s'étiole, plus les endroits publics disparaissent, plus les plages sont privatisées, plus les rues deviennent dangereuses et plus on construit de villages fortifiés. Comme l'ont démontré les géographes Mike Davis et Edward Soja, la muséalisation des espaces urbains produit simultanément la violence des ghettos. Est-ce que je pourrais... celle d'avant, s'il vous plaît, la diapositive d'avant. Voilà. Le phénomène que je viens de décrire ne doit pas être minimisé puisque le pays lui-même souffre de cette panique sécuritaire. La Californie, par exemple, est protégée de la ville mexicaine Tijuana par un gigantesque mur d'acier que vous voyez là, qui court tout au long de la frontière jusqu'au Pacifique. Ce mur, construit avec les plaques d'acier utilisées par l'armée américaine pour l'avance de ses chars dans l'opération Desert Storm, s'élevait alors que le mur de Berlin s'écroulait. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a un deuxième mur qui est en train de reconstruire en ce moment, mais on le construit non pas comme celui-ci avec des murs rouillés, etc. C'est high design. C'est d'une beauté à vous couper le souffle. Mais c'est un mur infernal. C'est absolument effarant. C'est en béton, en acier chromé, enfin, c'est d'une beauté superbe. À partir de 1980, je suis un petit peu cynique là-dessus, ça je dois dire que je viens d'une conférence justement, on parle de toutes ces questions-là, dans une conversation à Insight, et on nous a montré le côté mexicain et ensuite le côté américain et la différence, Yvan, évidemment, puisque c'est le tiers-monde qui se côtoient, c'est tout à fait extraordinaire. À partir de 1992, après les révoltes de East Los Angeles, se sont développées aux États-Unis des riches enclaves imbriquées dans les tissus urbains, mais totalement séparées des communautés. Un petit peu autre chose que les gated communities maintenant. La peur des classes dangereuses a permis que se développent dans les régions rurales des bunkers survivalists, comme ils appellent, pour survivre, et dans les villes, des villages citadelles. Ce qu'on appelle le nouvel urbanisme consiste à construire de toutes pièces des villes utopiques influencées par l'esthétique et l'idéologie de Walt Disney. Le plus connu de ces exemples est le village de Floride nommé Celebration. Je voulais vous montrer un site internet, mais si vous intéresse, vous tapez www.celebration et puis vous avez toutes les photographies du site. Construit d'Orlando sur les terres appartenant à la société Disney, ce hameau de 2000 personnes vivant dans 718 maisons est une parfaite copie de ce qu'aurait pu être une communauté du 19e siècle. Cette fantaisie a été en fait construite pour des gens suffisamment riches pour s'isoler dans cet espace organisé qui offre un golfe de 18 trous, des chemins forestiers, un lac au centre-ville où l'on peut faire du bateau à voile et autour duquel sont localisés tous les magasins pouvant être joints à bicyclette. Il y a aussi des écoles, un hôpital et bien entendu un centre de gymnastique. Les maisons de styles différents peuvent être choisies sur catalogue à partir d'une liste de modèles, pastiches parfaits du passé. Maisons victoriennes, classiques, néocoloniales, influencées par l'architecture de la côte, style méditerranéen et quelque chose qu'on appelle style français. Pavillons encadrés par l'architecture communautaire, programmés par de grands noms comme Philip Johnson qui signe la mairie, Michael Grave la poste et César Pelli le cinéma. La ville devient œuvre d'art et s'impose comme lieu de visite pour le touriste intéressé par l'architecture postmoderne. 1000 personnes par jour visitent, paraît-il, le site chaque fin de semaine. Le cachet de la ville est le garant de sa visibilité, de sa réputation et par conséquent de la sécurité de l'investissement. La communauté est fondée, dit le prospectus d'achat, sur 5 concepts. Éducation, santé et technologie, espace et communauté. Le tout offrant dans un cadre nostalgique, baigné dans un passé de rêve, une organisation très moderne, orientée quand même vers le futur, avec cybercafés et maisons pourvues de fibres optiques ultra rapides, propres à l'interconnexion. Une véritable féodalité cybernétique. Ce rêve que caressait Walt Disney depuis les années 50 est devenu réalité. C'est une petite ville, véritable œuvre d'art traditionnelle, ville du futur, dans laquelle tous les vices de la cité moderne sont évacués au profit de cette notion de communauté, de propreté et d'uniformité. Une ville qui sointe la nostalgie, mais une nostalgie ne pouvant fonctionner qu'au prix d'une surveillance de tous les instants. Cet espace protégé répond aux désirs de ses habitants qui rêvent d'un univers plus simple, mieux organisé, propre et policé, offrant un havre de paix dans un monde en pleine mutation postmoderne et confronté à l'incertitude économique, d'un monde fasciné par la vitesse cybernétique et dans lequel les fortunes se font et se défont sur l'Internet. Ces riches habitants achètent en fait un morceau du mythe américain, une œuvre d'art détachée des réalités quotidiennes et liée à un passé rêvé qui s'accorde très bien à une architecture éternelle. Mais l'excès paranoïaque de ces communautés a même été critiqué dans deux films que vous connaissez peut-être qui ont été produits à Hollywood, Pleasantville et The Truman Show. L'ironie dans cette déconstruction du mythe dans ces films et que l'histoire a été filmée à Seaside, Florida, une de ces villes réelles, mais ressemblant pourtant à un décor de cinéma. Une vraie ville, mais fausse. À côté de ces villes citadelles, poussent dans le tissu urbain de Los Angeles d'énormes centres marchands dont le rôle est de revigorer, de réurbaniser grâce à l'apport musclé de la consommation, les centres tombés en désuétude. En construisant de fantastiques espaces marchands pour en faire le cœur de la rénovation culturelle au centre même de la ville moderne, qui s'étiolait, Los Angeles, ces dernières années, a produit pour le monde une épure du futur. À partir des années 90, alors que les budgets militaires commençaient à baisser en raison de la diminution du danger soviétique, le financement alloué à l'industrie du divertissement s'amplifiait. La fin de la guerre froide a provoqué l'explosion exponentielle d'une société de consommation électronique dont les pôles mythiques restent Los Angeles et Las Vegas. L'artifice devient le signe du bien-être, un signe depuis longtemps spécifique à Los Angeles et à la côte ouest. Mais la manie des effets spéciaux, spécialité de Los Angeles, fait tache d'huile pour en arriver en Europe et en Asie, on va le voir. Les villes, les musées, les jeux électroniques commencent tous à se ressembler. Norman Klein, qui est quelqu'un qui écrit sur Los Angeles, explique ainsi ce phénomène. Je cite, « L'industrialisation du désir qui commença en 1955, c'est l'année où Walt Disney a créé Disneyland, a finalement mûri. Cette accumulation primitive du capital de divertissement a pris 50 ans pour arriver à maturité. Maintenant, il est prêt à coloniser le monde, à l'instar de l'Empire romain, mais sans empereur, bien sûr, et sans doute même sans Rome, dit-il. » Fin de citation. Pour la première fois, les espaces baroques version consommation envahissent tout simplement la voie publique. Avec l'accélération du développement des supermarchés et des parcs à thème, comme je vous donne une série d'endroits sur la Californie, Third Street Promenade, City Walk, All Pasadena, Media City, Burbank, l'expérience quotidienne à Los Angeles est devenue une véritable curiosité. L'architecte californien John Judd occupe aussi ainsi le pupitre du chef d'orchestre d'une extraordinaire planification du monde entier. Il impose une esthétique très particulière, la création d'espaces inscrits, cryptés, dirigés en utilisant un mélange d'étonnant d'esthétique, de décors de cinéma, de jeux électroniques et de textes visuels empruntés aux galeries marchandes. Il crée ainsi un ensemble irrésistible pour le touriste et consommateur. Celui-ci, mené par le bout du nez et des yeux, pénètre dans un univers qui tient à la fois de la ville et du parc d'attractions. Le premier effort de Danger a été la construction d'une galerie marchande pour le centre-ville délaissé de San Diego, en Californie du Sud. Cette revitalisation urbaine, qui s'appelle Horton Plaza, a été un coup de génie puisqu'elle voit là le point de départ de l'universalisation de son talent en tant qu'architecte de la mondialisation. Il s'agit pour lui d'importer au centre-ville le sens de la communauté, une identité pour la ville ou pour l'endroit pris en charge. Identité bien sûr liée totalement au commerce. Nous voilà en présence d'un véritable alchimiste urbain, comme le caractérise son bureau des relations publiques. La firme présente des projets pour revitaliser des endroits urbains délaissés, abandonnés. Avec Horton Plaza, créé déjà en 1985, il s'agissait de procéder à une véritable opération chirurgicale au cœur du tissu urbain de San Diego, datant du début du siècle. Vous voyez là, il y a une faille dans le bloc de maison, et ça, c'est son intervention. Son intervention fut radicale. Elle consista à créer dans le tissu même de la ville une faille architecturale qui s'élevait sur 5 étages. C'était un énorme labyrinthe empli de magasins, avec des points de vue surprenants, des perspectives baroques, des murs enluminés, colorés et des circonvolutions téméraires donnant une théâtralité imposante et insistant sur le jeu et la découverte. Cet exemple amplifie ce que la fin du siècle dernier mettait en place à Paris dans les fameux passages commerciaux reliant 2 rues. Ces passages, premiers espaces à faire rêver le consommateur moderne, inaugurèrent un style international d'architecture exprimant la nouvelle génération urbaine, mais ô combien différente de la nôtre, qui est très rapide, puisque, comme le notait Walter Benjamin dans son étude sur les passages, les flâneurs du XIXe siècle avaient le temps d'y musarder en promenant, quoi, leur tortue favorite. Ici, c'est un autre ordre d'idée. L'idée de Gerd d'intervenir bruyamment avec ses arcades pour sauver de la ruine les centres-villes est intéressante, car la ruine est la marque impitoyable de l'histoire. Les ruines de San Diego et de Los Angeles marquent ici le passage de l'industrialisation à la société de communication. Gerd arrive à transformer ce centre en d'éblouissantes constructions qui transportent les spectateurs dans un rêve tel que l'accumulation des objets à vendre fait oublier le passé calamiteux. La résurrection vient de la consommation. On peut dire que Gerd, comme dans les passages parisiens, transforme du dedans les espaces modernes de consommation en y injectant les fastes du baroque. L'art colonial américain est ici recyclé pour la colonisation de la vie quotidienne. Mais ce que Gerd garde de la tradition baroque n'est pas sa capacité à parler de la mélancolie accompagnant d'inévitables destructions et décadences. Il conserve au contraire l'art de développer les formes théâtrales du baroque en oblitérant cependant tout caractère moralisateur. tout comme ceux qui construisent les villes artificielles dont on a parlé auparavant, il veut recréer des communautés, réanimer l'architecture urbaine, copier, selon ses termes, je cite, l'intelligence de la géographie des villes européennes, en mélangeant l'esprit du quartier latin avec celui de Prague. Sa place Horton de San Diego est donc fondée sur l'inverse des galeries marchandes traditionnelles, devenues des bunkers sans fenêtres, sorte de forteresse protégeant des kyrielles de magasins similaires et ennuyeux, ne vendant que le nécessaire. Gerd a compris que la consommation réside surtout dans le superflu, le paraître, le branché et le spécial. La géographie qu'il met en place est qualifiée par lui d'européenne pour tout bonnement attirer le chaland. Il construit des perspectives étonnantes, créées par le rayonnement d'escaliers qui pourraient rappeler les villages italiens de montagne ou les casbahs du Maghreb. Je vais les montrer là. Les couleurs chaudes transforment l'espace d'achat en festival. Si la galerie marchande traditionnelle est complètement revitalisée par la fantaisie et l'exubérance de la théâtralité, elle est avant tout par des concepts à thème, comme il appelle, tel il fait une ambiance européenne, un retour à la nature, qui structure chaque espace. L'acheteur doit percevoir l'ensemble auquel il appartient, un espace cohérent qui lui donne une identité, une spécificité. L'espace produit un acheteur qui possède une âme et réagit à son environnement différemment d'un robot. L'environnement de Gerd produit cet acheteur grâce à certaines techniques muséales. Le shopping ne doit plus être une corvée, mais une promenade faite de surprises et d'émerveillements. Ici, la galerie marchande rencontre le nouveau musée, car dans celui-ci, on ne doit plus s'apesantir sur les œuvres comme le connaisseur le faisait autrefois. Maintenant, il faut reconnaître rapidement l'œuvre, savourer son pédigré et poursuivre son chemin jusqu'à la prochaine œuvre célèbre. Le parcours du combattant touristique rejoint ici le parcours de l'acheteur qui contemple, lui aussi, les marchandises exposées dans ces nouvelles galeries comme des œuvres d'art. L'accumulation n'est pas de mise, on présente en vitrine, vous savez, quelques objets sélectionnés avec soin, veillant à ce que les marques soient visibles, ancrées dans l'imaginaire et ne portant surtout aucune indication de prix, tant elles sont hors de prix. La robe, le costume, la montre sont offerts à l'adoration de l'acheteur potentiel comme s'il était en présence d'une œuvre d'art. On reconnaît le style, l'importance symbolique et cela suffit. Tout semble être apporté, proposé sans aucune barrière à la délectation de l'acheteur. L'espace est en fait très lourdement travaillé pour donner l'illusion d'une liberté totale en inscrivant toutefois dans le parcours de l'acheteur sa propre glorification. L'architecture lui donne à penser qu'il est acteur de ce théâtre, de la consommation, quand au mieux il n'est que celui ou celle qui choisit. Le succès sans précédent de cette expérience donna à Gerd la possibilité de développer les idées qu'il avait mises à jour à la gloire du commerce. Plusieurs millions de personnes visitèrent Hortons Plaza et 8 millions d'entre elles se ruèrent la première année pour voir sa deuxième œuvre, ce que je vous montre ici, l'Universal City Walk. Cette fois, l'expérience était plus intéressante encore car il s'agit de capter les gens qui transitaient d'un gigantesque parking à la porte des studios Universal, l'une des plus grandes et les plus importantes attractions de Californie. Il fallait récupérer et diriger les touristes égarés vers les commerces et faire fructifier les temps morts. Selon les idées du baroque électronique, Gerd et ses associés bâtirent un parcours très audacieux et compact qui menait les visiteurs à travers les rues d'un Los Angeles hyper condensé. Un boulevard de Los Angeles qui, contrairement à la réalité, était tout en sinuosité. Tous les 300 mètres, un coude hachait la progression pour augmenter la surprise de la marche. Le touriste et l'indigène pouvaient, mieux que dans l'original, expérimenter la mégapole en un temps record, sans connaître les problèmes de circulation, de violence ou de saleté. L'homogénéisation fut totale, la prise en main radicale. Comme dans un décor de cinéma, plusieurs sections de la ville furent réunies dans un espace ramassé. Tout était là, mais en réduction. On pouvait sans peine reconnaître des bribes de rues de la vraie vie ou des bâtiments du dehors. Rien pourtant n'était jamais construit avec le matériel original et la couleur était toujours différente pour dépayser sans excès. Gerd est le contraire d'Haussmann. Il ne détruit pas la ville, il incise le tissu urbain et y insère le commerce comme on fait une greffe pour rénover l'ensemble. À San Diego, c'est ainsi qu'on a cautérisé la plaie, mais le prurite est rejeté sur le côté. À trois rues du centre actif régénéré, chaque nuit traînent sur le trottoir des dizaines de personnes dormant à même le sol, sur des matelas que l'on cache le jour venu. Ces gens, jeunes pour la plupart, sont exclus d'un système supposé rénover le centre-ville. Au pays de la consommation et de la publicité, Ils dorment sous de larges panneaux cibachrome, vous savez, c'est des photos avec des transparences avec la lumière par derrière, protégés. Alors, ils dorment sous de larges panneaux cibachrome, protégés par deux pales d'hélicoptères miniatures qui, activées par des batteries solaires, tournent sans cesse. Ainsi, l'invention technologique protège la publicité des oiseaux, pigeons ou mouettes qui pourraient bien se laisser aller à la salir. Ici, le symbolisme du paradis éthéré de la consommation est poussé à l'extrême, mais reste séparé de l'enfer de la rue, vécu plus bas. Gerde construit donc ces espaces comme des musées toujours prêts à confronter, au détour d'une rue, un désir ou toute autre possibilité. La force de ces espaces architecturés réside dans le fait qu'ils donnent l'illusion de la dérive et de la découverte, mais planifiée. Comme dans un jeu électronique, il octroie à l'individu la seule image du pouvoir. Cependant, comme dans les jeux électroniques et le musée, tout est parfaitement et rigidement écrit. C'est pourquoi Norman Klein, encore lui, parle pour ces espaces de baroque électronique. Aujourd'hui, avec l'accélération fantastique des échanges, l'esthétique de ce baroque électronique et des effets spéciaux envahit le monde, transformant profondément la manière avec laquelle nous évoluons dans nos espaces quotidiens. Ça, c'est Las Vegas. John Gerd produit des espaces tellement stimulants qu'il donne, comme dans son travail ici à Las Vegas, l'impression que la vie contemporaine est incontrôlable et que seuls ces espaces virtuels peuvent concéder aux citoyens des moments de détachement, de rêve et de fantasmagorie, leur permettant de supporter ensuite la pesanteur croissante de la vie quotidienne. Le shopping se présente donc pour lui et dans ses architectures comme l'antidote de l'aliénation. Et je termine. Comme l'industrie du divertissement, l'architecture et les musées partagent aujourd'hui des techniques fondamentalement similaires. La muséalisation du monde était déjà trop avancée. Peut-on encore penser à des alternatives et à de nouveaux développements quand la nature elle-même est transformée en réserve ? À Vancouver, par exemple, la pêche au saumon, qui était très importante il y a une dizaine d'années, a été remplacée par la visite sous-marine des derniers bancs encore en vie. Ils sont devenus musées. L'alternative viendra-t-elle des conversations ou de structures culturelles plus petites et plus critiques que celles des musées d'aujourd'hui ? Nous sommes-nous déjà trop engagés dans l'hyperconsommation et la banalisation totale de la vie privée et sociale pour pouvoir s'en libérer ? Veut-on réellement s'en libérer ? La question est d'actualité si l'on en croit le Los Angeles Weekly, qui est un journal hebdomadaire gratuit, dont la vocation est d'annoncer les dernières productions culturelles de Los Angeles. Les annonces, ponctuées de publicités en tout genre, sont édifiantes et montrent à quel point la muséalisation du monde est déjà à nos portes. Los Angeles est en passe de produire le musée total, la transformation du corps lui-même. Nous connaissions déjà les avancées de la chirurgie esthétique, mais aujourd'hui... je voulais montrer la... Ça, c'est Las Vegas. Gerd, qui a construit Las Vegas, vous connaissez, il a construit la ville de Paris en miniature. Alors, c'est en dehors. La tour Eiffel est en construction et c'est entouré de fontaines, de parcs. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Les Américains vont, plutôt que de venir à Paris, vont à Las Vegas pour se marier sur la tour Eiffel. Et alors, il y a des restaurants français, etc. etc. Enfin, c'est la simulation totale. Enfin, Baudrillard a tout à fait raison dans ce cas-là. Voilà. Alors, nous connaissions donc déjà les avancées de la chirurgie esthétique, mais aujourd'hui, l'invention du laser ouvre des horizons nouveaux et multiples, encourageant pour la transformation de nos corps en œuvres d'art. On peut désormais se faire réduire le ventre, les fesses, pour un prix modique, se faire rapetisser le côlon, de manière à moins manger et maigrir sans faire de régime, Alors, on peut se faire rapetisser le côlon de manière à moins manger et maigrir sans faire de régime, se faire enlever la graisse des cuisses, se faire des implants pectoraux pour ces messieurs, se refaire les seins pour ces dames, évidemment, plus petits ou plus gros, se faire enlever tous les poils ou se faire réimplanter tous les cheveux. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Le corps entier peut être ainsi remodelé. Le futur sera-t-il influencé totalement par la culture californienne ? Représente-t-elle l'avenir du monde capitaliste ? Allons-nous être tous californiqués, comme l'idée de la chanson des Hot Chili Peppers ? Ici, je voudrais peut-être une seconde vous faire entendre ce que je veux dire. Mmh. Alors, ils disent, je vais essayer de traduire, c'est très difficile, mais enfin, ils disent, c'est la lisière du monde ici, c'est toute la culture occidentale finalement que nous représentons. Le soleil a beau se lever à l'est, mais il se couche à l'ouest, chez nous, à Hollywood. Et Hollywood, c'est bien connu, vent de la californication. Paye ton chirurgien un rubis sur l'ongle et tu briseras le mauvais sort fait à la vieillesse. Dis-nous, la star, te battrais-tu avec le lycée de ton menton ou fais-tu la tête? C'est ce qu'ils chantent. Peut-être serons-nous californiqués, mais nous continuerons d'aller au musée, voir de grandes expositions où les impressionnistes succéderont à Toulouse-Lautrec et aux expressionnistes abstraits. Nous irons jouer à Las Vegas et achèterons de nombreux articles à travers le monde dans des centres construits pour notre plaisir par ce monsieur John Gerd. Cela vous fait-il peur? N'ayez crainte, car la Californie, et là j'ai ma main, quoi, en sus du rajeunissement, offre en prime, grâce au laser, l'allongement des pénis et l'ajustement des vagins. Réjouissons-nous, car on nous promet un siècle de peu de lumière, mais de si grands orgasmes. Merci beaucoup.
Étant donné ce bilan navrant et le niveau de dérision que vous y mettez, comment pouvez-vous vivre en Amérique? Et question annexe, avez-vous une idée prévisionnelle de ce que sera notre futur musée des arts premiers?
Des arts premiers?
À Bercy, à Quai Branly. Le futur musée dit de Chirac.
Ah oui. Alors, voilà, pour la première question, j'habite en Amérique du Nord, mais je peux remarquer que j'habite au Canada. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis, et c'est pour ça que je n'y suis plus aux États-Unis, c'est pour ça que j'habite au Canada, qui est un pays extrêmement intéressant, qui donne un style de vie, je crois, vraiment le plus intéressant que j'ai rencontré dans tous mes voyages. C'est un pays qui permet de vivre une vie, je dirais, presque normale, c'est-à-dire qu'avec un mélange de modernité, d'intellectualité, de débats politiques sérieux, et non pas simplement avec deux partis comme aux États-Unis. Il n'y a pas une cacophonie comme en France. Ce qui manque, par exemple, c'est pour vous dire un petit peu le style de vie qu'on peut avoir, ce qui manque, c'est des débats dans les journaux. Par exemple, on n'a pas le même type de débat qu'en France. C'est pas aussi vivant, parce que les journaux sont pris en main par deux firmes qui se partagent le truc. Alors, au niveau des arts premiers, ça, c'est compliqué, parce qu'il faut revenir, il faut remonter à l'histoire française de la colonisation française. Ça, c'est compliqué. Ces dernières années, il y a eu en histoire de l'art un espèce de réveil en disant que les centres, les grands centres comme New York, comme les Français aussi, les Allemands, les historiens d'art ont dit qu'il fallait faire très attention et qu'il fallait refuser d'écrire sur les œuvres d'art qui ne sont pas trouvées in situ. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte et à prendre conscience du scandale qu'il y a en ce moment avec ces sculptures qui ont été volées dans différents pays. Et donc, il y a une espèce de prise de conscience, on essaie de réorganiser tout ça d'une manière très sérieuse. Il y a beaucoup d'anthropologues qui refusent, comme je disais, d'historiens d'art, qui refusent de parler de ces œuvres-là. Mais en même temps, il y a une nouvelle prise de conscience aussi de l'importance de ces œuvres et de l'importance de ces cultures. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup, ou j'ai mentionné souvent le fait que la postmodernité avait été intéressante pour la simple raison qu'elle avait ouvert le débat, avait ouvert les possibilités d'écouter les autres, d'avoir d'autres voix qui participent au discours de l'art moderne même, ou de l'art contemporain, ou de l'art tout court. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Mais je vois pas très bien à quoi vous voulez revenir. Vous voulez que je vous réponde spécifiquement à quelque chose sur le musée en France? Mais je trouvais que ça... Ça, cette nouvelle prise de conscience qui est un effet postmoderne, disons, c'est tout à fait bénéfique, ça. Il y a plein de choses dans le postmoderne que je trouve assez effarant, parce qu'il y a aussi ce côté fondamentaliste. Il y a pas mal de groupes qui disent « je ne veux que parler que de nous, nous sommes le plus intéressant, je me fous royalement de tout le reste ». Ça, c'est, à mon avis, c'est assez difficile à accepter. Et mais en fait, la dérision, vous savez, si on ne peut pas rire des bêtises qu'on fait, je crois qu'on se suicide, quoi.
Une autre question. Levez-vous, s'il vous plaît.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je me rassure. N'y a-t-il pas un risque d'une tentative d'uniformisation des goûts? Je ne sais pas si vous avez lu 1984 de George Orwell, si je crois. Ça me fait penser à ça. Et ma deuxième question, c'est portera sur une interrogation quant à savoir où seront placés les sentiments. C'est-à-dire que est-ce qu'on aura une lilloputation sentimentale?
Oui, l'homogénéisation, oui, ça, c'est un gros problème, ça. C'est pour ça que je trouve que les musées, les grands musées ont fait des erreurs catastrophiques, je trouve, dans les années 70 et 80, c'est qu'ils n'ont pas compris que si on s'intéressait véritablement à une production intellectuelle, c'est-à-dire que les arts, c'est aussi une production intellectuelle, c'est-à-dire c'est produit dans une certaine société, il y a beaucoup d'artistes qui parlent de cette société, qui parlent à des gens dans cette société, mais les musées ont toujours séparé la vie de tous les jours et l'art. Et alors, on ne présentait pas de débat, de discussion au public. On leur disait, vous aimez ça, ou si vous n'aimez pas ça, vous êtes des mules. Et on arrive donc après à une réaction et un rejet total de l'art contemporain, de l'art moderne, en particulier en France. J'ai vu, c'est effarant, il y a une dizaine d'années, la discussion qu'il y avait à Paris contre l'art contemporain et l'art moderne. C'était un débat qui s'est passé, alors pour le compte, aux États-Unis dans les années 30. Et ça, c'est parce qu'il n'y avait pas eu, le travail n'avait pas été fait dans les musées d'art moderne et d'art contemporain. On vous assénait tout ça, c'était vraiment autoritaire, et c'est pour ça que les gens se sont révoltés et qu'on a dit non, bon, ça ne suffit pas, etc. Alors, c'est toujours homogénéisé, si vous voulez, mais il y a des percées, et ces centres-là dont je parlais de conversation, il y a quand même des musées qui essayent d'ouvrir tout ça et de faire des débats, par exemple des discussions, ou même dans les présentations d'œuvres dans les musées, dans les expositions, des relations entre le Mexique, les États-Unis, enfin essayant de voir d'autres manières de voir. En l'Australie, par exemple, en ce moment, les musées australiens sont tout à fait extraordinaires parce qu'ils ont compris tout ça et ils font des expositions dans lesquelles on débat des problèmes politiques et sociaux à travers leur art traditionnel, mais aussi confronté à l'art contemporain. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. La deuxième question, c'est sur le sentiment. Ah ben là, je ne peux pas vous répondre parce que moi, ça va. Je sais pas.
Oui, voilà. Je suis là. Bonjour. Donc moi, j'ai été très intéressé par votre exposé, avec une montée vers la provocation, enfin vers la fin, c'est ce que j'ai senti en tout cas. Mais je me demande si, en pratiquant un certain cynisme de salon, je vais être moi-même provocateur un peu, en pratiquant un certain cynisme de salon, c'est pas un peu ce qui prépare en fait l'acceptation ensuite d'un suivisme, parce que finalement, est-ce qu'on diffère tellement des Américains? Alors je prends quelques exemples, c'est-à-dire en fait c'est bien effectivement le cynisme, est-ce que c'est pas quelque part la preuve que la véritable critique n'est pas là ou n'est pas faite? Alors je prends l'exemple par exemple en France, bon, parce que finalement, tout cela, c'est peut-être encore du pain, des jeux, mais je dirais, fait par le pouvoir, proposé par le pouvoir. Donc, on n'a pas le droit de manger un autre pain ou de jouer à d'autres jeux que cela. Je prends, par exemple, en France, est-ce qu'il n'y a pas également un certain un activisme pour faire des lieux? Alors, il faut absolument qu'on fasse... Alors bon, ça a été critiqué, hein, il y a des intellectuels. À Paris, on a les colonnes de Buren, on a la pyramide du Louvre. Mais maintenant, par exemple, alors on veut refaire le Mont-Saint-Michel, mais alors on fait des justes milieux. On sait ce que c'est devenu, en fait. Maintenant, c'est vraiment le commerce qui détermine l'évolution de ces lieux. Alors maintenant, on veut aussi faire, par exemple, à Carnac, un espèce de menhir land. Bon, qu'est-ce que ça implique, tout cela? Moi, je me demande... c'est-à-dire... est-ce que c'est du copinage? Est-ce que c'est de l'activisme pour se donner bonne conscience? Il n'y a jamais eu de débat sur ces questions-là. On mêle en même temps des concepts comme ceux de protection et de développement.
Merci.
Oui. Non, mais ça, c'est ça. Vous avez raison, mais je ne crois pas que je suis. Moi, je ne suis pas cynique, mais je dis que ben, il faut en rire un peu parce que il y a des choses qui sont quand même assez absurdes. Mais il faut dénoncer aussi. Vous dites que je suis provocateur. Non, il faut dire aussi ce qu'on voit autour de soi. Par exemple, le mur qui est créé entre les deux pays, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Et quand on voit le mur qui essaye de contenir l'autre, et ensuite on envoie des musées de Guggenheim partout, en particulier à Bilbao, en présentant, par exemple, il faut quand même le savoir, la grande exposition sur les motocyclettes qui était financée par BMW, et on présente ça à tout le monde comme si c'était l'art la plus extraordinaire. L'art, je m'en fous, ça peut être n'importe quoi, mais il faut quand même qu'il y ait une base de pouvoir débattre des choses importantes de nos vies de tous les jours. Et là, dans ces expositions-là, il n'y a absolument aucun moyen. Alors, au niveau de la réaction et d'une action, si vous voulez, pour vous montrer que je ne suis pas cynique, moi, je suis chef d'un département, et puis avec plusieurs autres chefs d'autres départements, on a créé une nouvelle école, disons, une école de conservateurs, qu'on n'appelle pas conservateurs, parce que ça, c'est un truc énorme. Enfin, en plus de ça, en France, on l'appelle conservateur. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est aberrant. Nous, on a fait une école en mélangeant des gens qui viennent de l'histoire de l'art, des musées modernes, et des musées d'anthropologie. Nous avons un musée d'anthropologie extraordinaire à Vancouver, et on va créer, si on veut, créer des nouveaux, entre parenthèses, des nouveaux conservateurs, des gens qui vont connaître la théorie de la représentation, qui vont connaître la philosophie, les débats qu'il y a en France, qu'il y a en France partout, parce qu'il faut bien se rendre compte que les philosophes français, certains philosophes français et certains sociologues français sont extrêmement connus aux États-Unis comme au Canada et permettent d'ouvrir le champ de l'histoire de l'art et le champ de l'anthropologie dans ces pays-là. Et c'est grâce à eux que l'histoire de l'art aux États-Unis et au Canada est assez extraordinaire. Et ici, il n'y a pas de ce mélange. Alors, les conservateurs que nous voulons faire, nous, c'est ce que j'appelle, on va essayer de créer des mutants, des types et des jeunes dames qui vont être totalement différents que ce qu'on a en ce moment. Et parce qu'ils ont des PhD, c'est-à-dire un doctorat en muséographie, vont s'implanter dans les musées, vont les changer de l'intérieur, enfin, plus ou moins. On va essayer. Mais si on n'essaye rien, si on ne fait pas ces conversations, si on ne voit pas des contacts qui vont pouvoir être autres et qui vont pouvoir changer justement cet aplatissement, cet affadissement, ce désastre culturel total en Europe et aux États-Unis aussi, on va continuer comme ça. Puis alors là, liposuction, machin, alors là, on va y être à plein. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est vrai que j'aime bien me battre un peu, puis être un petit peu arrogant et tout ça. Ouais. Ouais.
Une dernière question, monsieur, s'il vous plaît.
Où se situent pour vous les grandes expositions universelles, mondiales, dans le grand bazar que vous nous avez décrit, puisqu'elles étaient autrefois une sorte de Luna Park, montrant d'ailleurs des œuvres d'art et constituant pour des bâtiments des œuvres d'art?
Tout à fait. Et ben là, c'est intéressant parce que vous savez que la dernière grande exposition internationale qu'il y a eu en Allemagne cette année a été un flop total. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a plus besoin de ces expositions, puisqu'on les a tous les jours. L'équivalent est tous les jours. L'équivalent est dans les trucs de Jeurde construits en Californie. Ces grandes expositions étaient pour montrer au public la grandeur du commerce, des industries, etc. Mais maintenant, c'est fait tous les jours. C'est plus du tout. On n'est plus attiré par ces choses-là. On était attiré dans une grande exposition internationale de Paris parce qu'on construisait un machin énorme, la Tour Eiffel, qui était un truc comme l'équivalent de Jeurde avec ses environnements électroniques, etc. On y allait parce que c'était extraordinaire. Mais maintenant, on les a tous les jours. C'est plus la peine. Donc, ça, c'était une incompréhension totale des organisateurs de. Je me souviens plus où c'était, là. Hanovre, oui.
Serge Guibaud, je vous remercie.
Merci beaucoup.